comme dans Étienne-Alexandre Beauregard, à qui on parle ce matin. Un intello, mais ça sera pas un sujet intello. Comment ça va?
Ça va très bien, toi, Dominique.
Très bien. T'es dans la ville de Kearney, de Mark Kearney, Ottawa?
Ben oui, je suis du côté québécois, par contre, à Gatineau.
Ah, OK, je m'en allais dire. T'es éclairé par l'intellect de Mark. Ça dégouline. Mark est parti manger du chinois. On verra ce que ça donne.
Oui, c'est ça. On le reçoit quand même de l'autre côté de la rivière.
Ouais, tu reçois quand même les énergies.
Il brille tellement qu'on l'a de notre côté aussi. Ouais.
C'est très bon. Hey, tu t'es acheté un char.
Exactement.
Quelle histoire quand même. Enfin la
oui,
vie.
Oui, je me suis acheté
enfin,
un char.
Enfin
écoute.
La vie. Tu enfin la vie.
Ben, quand même un peu, quand même un peu. Puis tu sais, je pense que on le voit quand même de nos jours. En tout cas, il y en a beaucoup qui ont des voitures un petit peu plus tard que jadis. Puis surtout, tu sais, sûr, on s'entend là que c'est un peu comme moi, tu sais, qui a étudié, par plus étudié en sciences humaines, tu me diras. Tu sais, il y a un peu cette idée-là qu'on va le repousser le plus tard possible. Mais là, moi, j'ai abandonné quand j'ai tapé 25 ans, j'ai comme frappé mon Waterloo. Puis là, j'ai vu que ça marchait plus, en fait. Là. C'est-à-dire que moi, j'en ai en plus des amis là, qui ont eu leur permis à 30 ans ou même un petit peu après des fois. Mais c'est juste que tu te rends compte à un certain point que ça fonctionne pas en dehors d'à peu près 2-3 quartiers à Québec, puis si t'es sur l'île de Montréal. Mais vient un point où justement, tu as besoin de faire des trajets qui sont un peu différents. Puis là, moi, justement, j'ai déménagé à Gatineau pour le travail. Puis en fait, on voit que c'est tout simplement pas vivable. Là.
Mais ça n'a pas de bon sens. Tu pollues la terre et c'est égoïste aussi. C'est l'auto solo, hein? T'as pas une famille de 4. 5, c'est une personne, un char, t'embourbes la circulation, t'es un peu coupable.
Oui, sans doute que je suis un peu coupable. Écoute, une famille, éventuellement, naturellement, mais... Tu sais, c'est juste, ça m'a fait réfléchir quand même, je t'avoue, parce que c'est sûr que t'as entendu ça dans le discours, on nous dit souvent, ah, il faut pas être dépendant de sa voiture. Enfin, moi, je veux bien, tu sais. Mais là, c'est parce qu'à un moment donné, si t'es pas dépendant de ta voiture, tu dépends toujours de quelque chose. Puis on voit aussi, ces jours-ci, que quand on dépend du transport en commun, ben on n'est pas complètement dépendant non plus. Parce que, ben là, les grèves se multiplient, hein, que ce soit au RTC, que ce soit à l'STM. Ou juste si tu veux faire des trajets très simples, mais qui sont pas dans les horaires planifiés, ben ça peut te prendre super longtemps. Je vais prendre un exemple à Québec. Tu sais, moi, quand je restais encore chez mes parents, on était pas loin de Maguire, mettons. Tu veux te rendre à Quatre-Bourgeois. Ça prend 5 minutes en voiture. Tu en as pour 1 heure dans le 800. Puis le 800, c'est pas pire. Là, c'est l'affaire qui marche le plus. Mais déjà, tu vois que du moment que tu n'es pas exactement dans la petite case que tu veux faire du nord-sud, tu en as pour ta journée au complet, tu sais.
Pourquoi on diabolise tant la voiture?
Hey, honnêtement, c'est une bonne question. Ma théorie personnelle là-dessus, c'est que probablement que ceux qui font les politiques publiques, ceux qui sont dans beaucoup de grands médias, font partie de ceux qui vivent aux bons endroits où tu n'en as pas autant besoin. Parce que si tous les journalistes restaient à Beauport...
Comme Montréal, t'as des intellos de Toronto aussi, les woke gauchistes. Qui travaillent pour la CBC. La CBC est à côté du stade des Blue Jays. Donc, eux autres prennent le métro, puis le réseau de métro pourrait être déjà demeuré à Toronto. Fonctionne très bien. T'as même un tramway, ça, c'est drôle. Ça fait pout-pout-pout, ça va très lentement, là. Mais tu sais, tu prends le transport en commun. Bref, t'as pas de char. Les plateaux Pitec à Montréal qui, justement, se déplacent en métro pour aller à Radio-Canada ou à La Presse, effectivement, eux autres ont pas de char. Fait qu'ils crachent sur le mode de vie... de ce qui dépeigne comme étant la dépendance à la voiture.
Ben, c'est ça. Puis, moi, ça me dérange pas qu'il y ait des gens qui vivent comme ça. Puis, grand bien pour eux si ça fonctionne. Mais je pense quand même que quand tu es dans une position de responsabilité, entre guillemets, là, que tu sois dans les médias ou que tu sois au gouvernement, tu as quand même le devoir de penser pour, j'espère, la majorité de tes citoyens. T'sais, on dirait souvent que le point de vue, justement, de celui qui reste en banlieue, ou pire encore, celui qui reste très loin en région, qui n'a pas le choix, puis même des fois, il a besoin d'un pick-up parce qu'il roule dans la neige, il travaille dans la construction, il transporte des affaires. Mais c'est comme si ces gens-là, on dirait que leur voix, elle se rend pas toujours, t'sais, comme si c'était pas un mode de vie qui était aussi valorisé, qui était aussi important. Puis je pense que, t'sais, moi, ça me dérange pas qu'il y en ait des métropoles, puis qu'il y ait des gens qui vivent dans les grandes villes. C'est normal, il y en a toujours eu, puis il y en a de plus en plus par ailleurs. Mais, est-ce que ça veut dire que ce mode de vie-là, on peut le reproduire partout, bord en bord du Québec, d'est en ouest, puis de nord au sud? Moi, je pense pas.
Tout comme le fait de dire le transport en commun, oui, dans les grandes villes. Assurément, on n'est pas contre le transport en commun. On est en faveur un transport en commun efficace et bien géré. Mais tu ne peux pas répliquer le transport en commun mur à mur. Moi, je veux des autobus à Saint-Pierre-les-Béquets. Pendant 24 heures, je veux que le bus passe avec des arrêts aux 4 minutes. Tu sais, tu ne peux pas répliquer cette réalité-là telle que décrite selon les saintes volontés de la gauche QS. Répliquer ça dans toutes les villes et villages du Québec, de Matane au lac Saint-Jean, en passant par l'Abitibi. C'est ça qui devient délirant comme discours.
Ben exactement. Puis, en fait, ce qui est très intéressant là-dedans, moi, je me demande souvent, tu sais, qu'est-ce qu'il y a en arrière de ce discours-là? Puis, je me demande, OK, c'est les mêmes souvent qui vont nous parler de densification de population. Puis ça, d'ailleurs, ça veut dire, OK, la maison unifamiliale, on fait quoi avec? Tu sais, est-ce qu'on veut vraiment mettre tout le monde dans des petits appartements, etc.? Puis, ça pose quand même une question plus large, on s'entend, qui est celle de l'occupation du territoire. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment que 80% du monde du Québec reste dans deux villes, que tout le reste, on a un grand territoire, puis ça, on devrait en être fiers? Est-ce qu'on va l'occuper encore? Ou qu'est-ce qu'on va faire justement avec Saint-Pierre-les-Béquets? Est-ce qu'on va le fermer? Pourquoi on ferait ça? Tu sais, c'est comme, j'ai l'impression que c'est pas une vision de développement qui est toujours très cohérente, ou du moins qui oublie beaucoup d'endroits, tu sais.
Effectivement, il y a une stratégie là-dedans. Tu as la stratégie également qui est très discutée, élaborée dans les grands think tanks de ce monde à Davos et à l'ONU de la ville 15 minutes, telle qu'implantée, entre autres, à Edmonton, où tu as, dans cette ville-là, et comme dans d'autres villes également canadiennes et québécoises, des conseils de ville gauchistes. Donc, eux prennent un pattern à l'européenne, veulent l'inculquer en Amérique du Nord. Donc, la ville 15 minutes, ça, c'est, lisez ça, les livers, sur le site Internet d'Edmonton. C'est-à-dire, tu laisses ton char à la maison, tu fais tout en 15 minutes. La garderie est pas loin, la boulangerie, l'épicerie, puis la salle de spectacle ou le parc pour t'amuser un peu. Mais ce n'est pas réaliste dans un mode de développement nord-américain.
Mais non, t'as raison. Puis, tu sais, moi, je reviens de Paris. J'ai passé la semaine à Paris avant. J'adore aller là. Tu sais, je veux dire, là, t'as un mode qui est européen. Tu sais, c'est-à-dire que les gens vivent dans des appartements la plupart du temps. Puis, au rez-de-chaussée, t'as des commerces et tout. T'as un métro qui est très fonctionnel. Mais on s'entend que c'est un autre monde, là. Puis, déjà, la température, ça aussi, c'est une autre affaire. Écoute, je suis arrivé lundi passé, puis la neige m'a suivi. J'en croyais presque pas mes yeux. Je pensais que j'allais avoir la paix pendant une semaine. Finalement, t'avais des gros bonhommes de neige dans le cimetière du Montparnasse à Paris, des choses qu'on voit assez rarement. Mais tout ça pour dire qu'ils sont pas équipés pour ça non plus. T'sais, je veux dire, à un moment donné, quand t'as la grandeur du territoire, quand t'as la météo de l'Amérique du Nord aussi, c'est normal qu'on puisse pas fonctionner comme ça. Fait que, justement, est-ce que c'est une bonne idée de prendre des patterns qui ont été faits pour l'Europe et d'essayer de les appliquer au Québec, de les appliquer en Amérique du Nord? Moi, je pense pas. T'sais, est-ce qu'on peut aussi avoir un mode de développement? Puis, j'ajouterais quand même à ça que, disons, il y a pas mal plus de gens qui quittent l'Europe, son modèle très densifié, pour venir en Amérique du Nord que l'inverse. Fait que ça veut peut-être dire quelque chose aussi. Tu sais, ceux qui regardent de haut là, l'idée d'avoir une maison unifamiliale avec son gazon, avec son driveway, avec sa voiture dedans, mais je pense pas qu'ils ont compris ce que les gens ils veulent. Parce que si les gens ils votent avec leurs pieds et avec leur portefeuille, c'est ça que les gens veulent. Puis malheureusement, d'ailleurs, un des problèmes avec le logement aujourd'hui, c'est qu'on en construit presque plus des maisons unifamiliales.
N'est-ce pas révélateur?
Ben oui.
Et en même temps, on va contrôler. Je veux t'entendre là-dessus aussi. On veut contrôler ce qu'on mange, combat contre la viande rouge. On diabolise, évidemment, c'est du Trump, donc Trump est mauvais. On diabolise la viande rouge, les protéines, faut manger des graines, faut manger des insectes. Il faut vivre en bloc appartement. On diabolise le bungalow, on diabolise la liberté, on diabolise la voiture, tu l'as dit. Mais on diabolise également le mode de vie. Je veux t'entendre sur l'escouade anti-feu de foyer. On diabolise et on va contrôler comment on gère nos vies et comment on se chauffe au Québec, une terre nordique. Ça, tu l'as vu passer, ça. C'est complètement aberrant,
cette
histoire-là.
Ah oui, je l'ai vu passer certain.
Qu'est-ce que ça révèle, pour l'intellectuel que tu es, là? Qu'est-ce que ça révèle? Ça, parce que Marchand, c'est pas le seul.
Moi, je me questionne beaucoup.
Oui, vas-y.
Non, c'est pas le seul. Mais moi, je me questionne beaucoup sur cette nouvelle génération-là de maires de gauche, etc. Puis un peu le mode de vie qui amène, le mode de développement. Puis on est là-dedans, t'sais. On est dans la densification. On est dans justement comment est-ce qu'on peut un peu changer la vie des citoyens sans toujours leur avoir demandé leur avis, parce qu'ils sont pas toujours élus sur ces choses-là. Hein. Puis souvent, c'est d'ailleurs l'ironie de la chose, les responsabilités de base de la ville, genre ramasser poubelles, déneiger, on dirait que ça passe un peu en deuxième par rapport à ces affaires-là. T'sais. Puis déjà, la question des feux de foyer, c'est pour ça que c'est tellement lunaire. T'sais, on s'entend, on est quasiment on est entre Noël et le jour de l'an. Puis tu payes des fonctionnaires municipaux pour faire ça. Au pire, mais en vacances, je ne sais pas. Mais c'est particulier quand même que ça soit ça. En tout cas, la priorité de la municipalité à ce moment-là, c'est clair que... Puis, alors que le déneigement n'est pas toujours top-notch. T'sais. Fait que je ne sais pas. Honnêtement, je me demande un peu quel sens des priorités qu'on a aujourd'hui dans les villes. Puis à l'inverse, je vais te le dire, puis je pense qu'on a un travail à faire peut-être du côté plus conservateur puis du côté des intellos aussi, de dire, OK, c'est quoi la ville plus conservatrice qu'on voudrait. Parce que j'ai l'impression, malheureusement, au municipal maintenant, qu'il y a juste à gauche qui a une vision. Puis c'est très clair, puis ils le proposent, puis ils sont capables de susciter de l'enthousiasme. Puis de l'autre côté, on dirait que t'as juste des gens qui disent « Ah, ben, tu sais, laissez-nous tranquille, tu sais, on veut une forme de liberté, puis tout. » Mais OK, c'est quoi le projet derrière ça? Moi, je pense qu'il faut remettre la famille au cœur de la ville, justement, avec ce qui permet d'élever une famille. T'sais, pour les jeunes, moi, je pense que toute la question de l'accès à la propriété, dont on parle beaucoup, c'est beaucoup plus qu'une question matérielle. C'est aussi de dire, OK, quand est-ce que je peux commencer ma vie? Quand est-ce que je peux me marier? Quand est-ce que je peux avoir des enfants? Quand est-ce que je peux avoir les conditions matérielles pour réaliser ça? Moi, je pense que c'est ça qui serait un projet porteur pour les villes. Je pense à les gens que je connais, je pense à moi-même, qu'est-ce que j'ambitionne de faire dans une ville? C'est bien plus ça que de dire, est-ce qu'on va policer la vie des gens? Est-ce qu'on va regarder combien de déchets ce qu'ils font. T'sais, ça me semble un peu contre ce que la plupart des gens veulent, là, en tout cas.
Qu'est-ce que tu vas faire en 2026? Dernière question. C'est quoi tes projets en 2026? Y a-tu un livre au four? Y a-tu quelque chose d'intéressant? Je sais que tu vas souvent en France. Qu'est-ce qui t'allume aussi, les grands sujets, les grandes tendances de 2026 pour toi?
Ouais, c'est sûr, j'aimerais ça, écrire un autre livre en 2026, mais c'est sûr, ça sortira en 2027 parce que, crois-le ou non, j'ai un horaire assez occupé de ce temps-là, mais j'essaye de lire et d'écrire autant que j'aimerais. C'est sûr qu'il y a ça. Écoute, au niveau des tendances, je pense que, ben, en politique québécoise, il va y avoir beaucoup de changements, là. Tu sais, juste, on regarde, le Parti libéral qui va se trouver un nouveau chef. On a l'élection. Tu sais, moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi, justement, les visions qui vont être mises de l'avant. Ça va être quoi les grandes idées? Ça va être quoi les grands thèmes? Est-ce qu'il y a des choses qu'on parlait pas avant qu'on va peut-être plus parler? Ben, tu vois, nous, à Cardus, évidemment, on va beaucoup travailler sur la question de la famille. On aimerait ça que les partis commencent à se réapproprier. D'ailleurs, on voit que le Parti conservateur a commencé un petit peu sur les réseaux à en parler davantage. Ça, je le salue. Fait qu'il y a cette question-là, je te dirais. Puis on va voir aussi est-ce que Mark Carney va être capable d'avoir sa majorité. Là, je pense qu'il est à un député de l'avoir. Puis en politique fédérale, ça va être ça aussi. Ça va amener beaucoup de stabilité puis
mais de spectre d'une élection. Mais en tant que conservateur, janvier, c'est le vote de confiance de Poilievre. Est-il encore ou non l'homme de la situation à tes yeux et pourquoi?
Ah, écoute, moi, je peux pas vraiment prendre position sur ces questions-là. Tu sais, je suis pas militant ou quoi que ce soit. Néanmoins, je pense que il y a quand même des résultats qui parlent pour lui. T'sais, je veux dire, juste si on regarde les faits, les chiffres, c'est la personne qui a eu le plus de votes de l'histoire du Parti conservateur. Tu regardes les jeunes, par exemple, qui sont beaucoup sur les réseaux sociaux où il est très bon, il est capable d'aller chercher ces gens-là. T'sais, si on allait chercher quelqu'un d'autre qui n'a pas ces capacités-là, qui n'a pas le même tirant d'eau, est-ce qu'on irait aussi loin? T'sais, moi, c'est pour ça que je sais que ça en excite beaucoup. L'idée est-ce qu'on peut changer de chef et tout, j'imagine que ça fait un peu de nouveauté. Pour les médias, c'est le fun, ça te fait quelque chose de différent à dire. Mais moi, c'est mon côté prudent, justement, mon côté conservateur, des fois, qui dit, tu sais, des fois, le mieux est l'ennemi du bien, tu sais. Si on se débarrasse, puis ça vaut autant au Québec qu'au Canada, tu sais, qu'est-ce qu'on va avoir en échange? Puis souvent, je sais pas, on n'a pas toujours une alternative en tête. Fait que des fois, il faut résister un peu à l'espèce de pulsion de dire, ah oui, on va dégager pour avoir du changement, tu sais. En tout cas.
Oui, je pense que oui. Je pense que tu as raison. Le contexte fait en sorte que il peut y avoir des élections cette année. Moi, je pense que la gauche va se raffermir de par le fait que sont bien, bien apeurés par le virage, qui n'est pas un virage pro-pétrole très vigoureux, là, mais quand même, le fait que Carney aille se coller sur Daniel Smith, il y en a beaucoup qui capotent, dont Stephen Guilbeault. Moi, je pense que si tu as un NPD plus fort avec un chef qui a du bon sens, ils n'ont pas de chef, mais si les gauchistes quittent momentanément le Parti libéral pour vraiment raffermir le NPD qui s'est dégarni au cours des dernières années, moi, je pense qu'il y a beaucoup de conservateurs qui n'ont pas passé dans certains comtés, mais qui pourraient passer serré. C'est sûr que ça va les avantager, là, au plan mathématique.
Ah oui, c'est assuré.
Conservateurs.
C'est assuré. Puis, t'sais, oui. L'histoire de la dernière élection, on s'entend. En tout cas, encore une fois, juste numériquement, si tu regardes les chiffres, c'est pas tant le Parti conservateur qui se bat, parce qu'il était toujours autour de 40-42.
C'est
plutôt
NPD qui
le
est mort.
NPD qui s'effondre complètement, exactement, qui est mort. Fait qu'à partir du moment où, justement, t'as une nouvelle division un peu, puis si Poilievre est capable de garder tous les votes qu'il y a déjà, ben là, il va avoir une grosse différence, c'est certain. Là. Fait que d'une certaine manière, c'est un peu de jouer prudent pour le moment, puis peut-être qu'il va avoir une ouverture. Là.
Très bien. Hey, merci beaucoup, Étienne. On s'en jase en deux semaines.
Ben, merci à toi.
Salut, bye. Salut.
Salut. Salut.